Merci déjà pour cette invitation. Et j'ai en effet, j'ai soutenu ma thèse, comme vous le voyez, en 2011. Donc je n'ai plus continué à travailler sur ces sujets, je me suis orientée sur d'autres questions. Donc mon regard est probablement daté, car j'ai suivi la suite de l'évolution de métier par la presse, mais je n'ai plus fait du terrain. Et j'aimerais commencer par expliciter quelque chose qui fait écho à ce qui racontait Dominique au début. En fait, vous entendez mon accent, je suis étrangère. Et c'est à partir de cette position et cette situation d'étrangère que je me suis interpellée, ou j'étais interpellée par cet acteur, les experts. Et j'avais une connaissance plutôt livresque de ce que c'est les syndicalismes français, il ne me semblait pas spontanément évident que des experts interviennent comme je les voyais à partir de 2005-2004 et comme ils les faisaient auprès des militants syndicaux. Il fallait dire aussi qu'au moment où j'ai débuté ma thèse, il n'y avait pas tout ce que vous avez présenté ce matin, donc j'ai dû faire beaucoup d'archives de différents types, je pourrais expliciter des entretiens, de regarder la jurisprudence pour essayer de me faire une idée de qui étaient ces experts et comment ils intervenaient. Et je voulais dire aussi, quand je parlais du syndicalisme un peu livresque que je connaissais, mais ce que j'entendais et l'image un peu courante et du syndicalisme français, c'était qu'il restait très très politisé et plus porté sur la protestation que sur l'argumentation technique et gestionnaire, et du coup ça apparaissait encore plus surprenante et voir ces experts. Ma deuxième surprise est portée sur les caractères extérieurs et contractuels de cette intervention des experts et sur leur omniprésence. La prolifération des institutions est censée fournir une aide technique aux représentants des personnels et s'est présentant pour certains d'entre elles un facilitateur de dialogue social. Leur intégration est plus large dans le répertoire d'action syndicale et m'apparaissait ainsi comme une tendance lourde et très très peu étudiée et dans les relations professionnelles. On pouvait même se demander à l'époque si ces experts n'étaient pas les accoucheurs d'un nouveau modèle de relations professionnelles, davantage professionnalisé et tourné vers les dialogues sociaux. Et donc c'est pour tenter de saisir ces enjeux que mon travail s'est orienté vers d'abord une histoire sociale de la fonction technique d'expertise auprès des représentants des salariés, autant des représentants du personnel que des syndicats. Et je ne me suis pas centrée uniquement sur l'expertise comptable ou sur l'expertise CHSCT qui explosait au moment où je faisais ma thèse. Donc, vous le voyez dans les titres de la thèse, j'essaye d'étudier 70 années d'histoire de développement de cette activité. Et je lui proposais de faire pas un deux faces comme ça a été plutôt présenté ce matin, mais plutôt un quatre faces qui me permettait de rendre compte des chemins un peu sinueux, des sortes, des bifurcations qui ont marqué la constitution et le développement de cette activité. Et ces différentes faces renvoient autant à un découpage chronologique que problématique, parce que j'avais l'impression que ce qui s'est joué était une double reconnaissance. D'une part, celle de l'expertise comme une catégorie légitime d'action pour les représentants des salariés, et celle des experts professionnels comme la bonne façon d'incarner cette fonction. Aucune de ces deux reconnaissances ne me paraissait linéaire, naturelle ni évidente. Donc les quatre étapes que j'avais marquées, c'était de 1945 à 66, de 66 à 81, de 82 à 94 et de 95 à 2010. Et ces quatre périodes permettaient aussi de montrer les variations historiques de la figure qui était censée incarner cette expertise. D'abord l'expert appointé, l'expert militant, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, l'expert professionnel, on a un peu parlé, et les consultants, qui pour moi représentent vraiment c'est une activité différente. Donc je viens un peu à ces quatre étapes rapidement parce qu'il y a des choses qui ont été évoquées. et que je ne rentrerai pas dans, dans les détails, mais il y a... voilà. Et à la libération, l'expertise sur cette recours aux experts, mais l'expertise en général, je dirais, relevait d'un projet réformateur. Et c'était une invention pour les organisations syndicales dans lesquelles les hauts fonctionnaires du ministère du Travail ont joué un rôle central. On ne l'a pas parlé, mais je l'ai beaucoup documenté dans ma thèse. Vraiment, les ministères du Travail, en particulier des femmes au sein du ministère du Travail, dont il y avait beaucoup de femmes. Et ils ont été, dès le début jusqu'à la fin, vraiment, et du processus est très moteur dans le développement d'une activité d'expertise large. Je vais m'expliquer. Il s'agissait à l'époque d'évoluer vers un modèle de relations professionnelles fondé sur les partages des fruits de la croissance plutôt que sur la lutte des classes. Et pour ce faire, il fallait permettre aux syndicalistes d'accéder à des savoirs techniques en matière économique, de gestion, comptabilité. Et à l'époque, les recours à l'expert comptable n'étaient qu'une parmi plusieurs instruments pour développer cette fonction technique. Il y avait des missions de productivité qui étaient organisées pour échanger avec des syndicalistes nord-américains et voir comment ils faisaient. Il y avait l'éducation ouvrière, qui après c'est devenu la formation, la création des bureaux d'études et techniques pour les syndicats et intersyndicaux, qui vraiment ils visaient à développer cette dimension-là. Et donc dans cet éventail large des moyens, les recours à l'expert, et Henri Chassé-Legrand l'a bien explicité, l'idée de ces recours aux experts, quand il a été acté en 1946, devait être transitoire et ponctuelle. L'expertise était pensée comme devant, à terme, être incorporée par les organisations syndicales, et les syndicalistes étaient appelés à devenir eux-mêmes experts. Le recours à l'expert comptable ne fut à l'origine ni demandé par les syndicats, ni voulu par les patronats. Les syndicalistes avaient toutes les raisons, les militants hein, avaient toutes les raisons sociales, politiques, culturelles d'être méfiants à l'égard des experts comptables, et qui d'ailleurs le rendaient bien. Et Michel Capron a aussi raconté comment les premiers experts comptables étaient un peu forcés aux contraintes de faire cette mission. Il y avait vraiment très peu. Et parce que c'était aussi s'affronter à ses propres collègues qui intervenaient de façon classique dans les entreprises. Hein. Donc pendant ces premières années, les quelques experts comptables qui remplissaient cette mission étaient complètement tiraillés entre la fonction pédagogique que leur attribuaient les textes et la volonté de dénonciation de l'exploitation patronale qui exigeait de certains militants, une grande partie des militants, qui les sollicitaient. Donc j'ai souligné pour cette étape l'échec de ces projets initiaux, confrontés à l'hostilité de la majeure partie du mouvement ouvrier, comme du patronat, dans un contexte qui était rapidement surdéterminé par la guerre froide. Donc, c'est au tournant des années 60 qu'il s'opère une refondation du recours à l'expertise, grâce à sa réinvention et par les organisations syndicales. Les recours aux experts, et bien sûr, acquièrent alors un nouveau sens en devenant un moyen de favoriser les droits à l'information économique et à l'expression des salariés. Il est interprété comme un levier pour la démocratisation des entreprises et en particulier à la diffusion des pratiques autogestionnaires dont parlait Pierre Héritier, donc, ce qui était porté en particulier par les militants CFDT. J'ai aussi souligné les rôles déterminants joués par les secteurs actions revendicatives de la CFDT. Et on ne l'a pas mentionné, mais dans ma thèse, en tout cas, j'accorde une importance très importante à Michel Lutron, qui a réinvesti cette activité. Et s'il a réussi à les faire, c'est aussi grâce à quelques experts comptables, dont Yves Doucet, expert comptable atypique, comme on l'avait proposé et présenté, qui vont s'employer à faire évoluer la mission initiale dans un sens plus utile aux militants, en débordant la dimension purement comptable. Et c'est vrai que ce travail est mené par Michel Lutron, Yves Doucet et d'autres, bien sûr, c'était un travail vraiment de porter vraiment à bras les corps pour convaincre les militants, pour contacter des fédérations qui veulent l'utiliser. Bon, je pense qu'on parlera de tout ça, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression que ça n'a pas été assez souligné ce matin. Et je voulais souligner aussi que cette dynamique n'était pas qu'une dynamique portée sur l'expertise comptable. Il y avait aussi une réflexion sur l'ergonomie, sur les conditions du travail, notamment sur les processus d'informatisation qui ne rentraient pas du tout dans les missions légales de l'expert. En tout cas, c'est la seule qu'il pouvait faire, mais qui était dans le même environnement. Alors, ces experts sont tous issus d'un même réseau de sociabilité militant, pour les dire vite, deuxième gauche, grosso modo. C'est pourquoi ils acceptent que leur activité soit formellement indépendante de la Confédération, mais organisée, articulée et même, je l'ai dit, contrôlée par elle. Ces collectifs scellent une alliance entre des syndicats, des syndicalistes et des intellectuels spécifiques. Il y a des ingénieurs, il y a des économistes. Les experts comptables sont finalement minoritaires, hein. Et je parle bien sûr des syndex, d'abord comme association, donc à partir des 67, on va dire, jusqu'à 71, quand c'était créé comme cabinet d'expertise comptable, mais aussi de l'association pour la recherche sur l'emploi des techniques, la RET, que peut-être certains se souviennent, il existe toujours. Hein. Et, donc, qui à l'époque aussi faisait partie de cet univers. Autrement dit, les syndicalistes reconnaissent à l'époque ces experts comme des alliés légitimes, à la condition qu'ils s'inscrivent dans la vie militante de la Confédération. La création de la section syndicale d'entreprise, l'information de plus en plus importante dont disposent les comités d'entreprise, dont notamment la loi sur les bilans sociaux, ça a été aussi évoqué, vont rendre l'action de ces experts encore plus stratégique pour les organisations syndicales. Ça n'a pas été évoqué, mais les rôles joués par Syndex chez LIP, par exemple, ce qu'il a fait connaître, il y a des articles dans Le Monde dans lesquels sont cités et les experts et Syndex en tant que tel. Je crois que c'est la première fois que j'avais vu les noms écrits au-delà des presses, des archives confédérales ou plus des experts. Et je voulais dire que de manière plus tardive, parce que c'est un tout petit peu plus tard, c'est fin des années 70, on trouve, et Michel Capron l'a dit aussi, l'a mentionné à la fin, on trouve quelques secteurs à la CGT qui s'intéressent aussi à ces enjeux. Ils contribuent à créer quelques initiatives. C'est bien sûr les secteurs économiques avec Jean-Louis Moineau, Philippe Sarifian, d'autres personnes qui vont intervenir, mais c'est aussi dans les régions, il y a des associations, des comités d'entreprise qui se cotisent pour pouvoir solliciter des économistes qui viennent les aider. C'est même à la base des cabinets qui existent toujours aujourd'hui pour qui travaillent beaucoup avec les cellules, pas que les cégétistes, mais à l'époque c'était avec ces cellules-là. Donc, ce que je voulais dire, c'est que à l'époque, la CGT aussi mettait en place des structures intermédiaires pour essayer de contrôler ou travailler avec les experts. En gros, de développer une expertise interne sur ces questions, parce qu'ils se méfiaient un peu du travail qui faisaient ces experts comptables, qui faisaient un travail qui était inintéressant pour les élus, pour les vrais militants. Parfois, ils disaient, on les fait uniquement symboliquement pour faire cracher des frics au patron, mais on n'attend rien, en fait, de ce type d'expertise. La troisième étape est celle de l'institutionnalisation des pratiques innovantes, testées les années précédentes, encore une fois, sur les domaines économiques, mais aussi sur les domaines de l'informatisation, des nouvelles technologies, avec les votes des lois Auroux, et sur lesquels je ne reviens pas parce que c'était très, très développé, mais vraiment, ils sont constitués l'élargissement, et pas seulement au sein de l'activité économique, mais aussi pour l'expertise CHSCT, et l'expertise qui, après, il a disparu, mais qu'à l'époque, on avait beaucoup parlé, il y avait beaucoup de... C'était d'ailleurs la seule mission sur laquelle j'ai trouvé plus de documentation, c'était l'expertise en nouvelles technologies. Finalement, je reviendrai. Et j'aimerais insister Ici, plutôt sur l'effet que, et pendant les débats préparatoires de la loi, et l'écriture en fait de la loi, la question du recours aux experts n'était pas prioritaire pour les deux confédérations, ni CGT ni CFDT. Elle n'y s'y oppose pas, bien sûr, mais laisse les experts intervenir directement et participer à l'élaboration des dispositions les concernant. Ça a été évoqué, comment les experts eux-mêmes ils vont pousser pour dire bah, quel type d'information ils vont avoir, quelle est la bonne formulation, même si c'est à la fin du débat, pour que ça puisse être inscrit de la façon dans laquelle il les convenait. Et, deuxième élément à préciser, c'est que, hormis la question de l'expertise économique, dans l'expertise comptable. Et pour les autres missions, si les droits ne les prévoient pas, il n'interdit pas non plus que se développe une expertise dispensée en leur sein, et par les syndicats eux-mêmes, à l'image de l'expertise juridique des conseillers prud'hommes. Ça aurait pu être fait pour les autres activités. Donc, si je dis ça, c'est pour insister sur l'idée que les cadres posés à l'époque ne présageaient donc pas que l'activité prendrait la forme d'une prestation des services délivrée par des organismes de droit privé dans le cadre d'un marché concurrentiel. Dans cette période, on voit d'ailleurs des processus distincts, mais on voit se mettre en œuvre à la CFDT et à la CGT, et une volonté de travailler avec ces experts, mais qui va être un peu différente. À la CFDT, j'avais mentionné Michel Letron, mais dans cette période, c'est peut-être plus Jean-Paul Chaquier dans les secteurs entreprises qui va organiser, encourager et faire la promotion des outils internes pour les expertises non économiques. C'est le cas des plusieurs dispositifs censés aider aux élus, et surtout contractualiser et définir un peu comment ils vont travailler. Je pense, peut-être vous vous souvenez, de CELIC, Impact, Forum CE, CELID ensuite, et d'autres associations régionales, l'ARET aussi, ça fait partie de ça. Du côté de la CGT, et les secteurs économiques de la Confédération qui avaient contribué à créer ces structures internes pour assister les élus et orienter un peu le travail des experts comptables, ils commencent à réfléchir, à dire qu'il faudrait faire un peu comme Syndex, mais après l'éviction de Jean-Louis Moineau, dont on a parlé, les institutions, finalement, créées, ils dépérissent un peu, et la CGT est plus décentralisée. Et vraiment, la Confédération se désintéresse du travail avec les experts et font les paris, à l'époque, que le renouvellement naturel des experts comptables, en tout cas, allait arriver parce que les cabinets avec lesquels ils travaillaient, Masson, Piroli et Maréchal, et c'était toutes ces personnes qui partaient à la retraite. Et c'est à ce moment-là que Pierre Ferracci a racheté ses cabinets en créant au début Secafi Maréchal, après Secafi Alpha, après les groupes Alpha. Et qui vont faire que, pas que l'expertise économique, sinon ils vont remplir tous les gens. Michel Tapron l'a rappelé. Hein. Il n'y a pas eu à l'époque, malgré tout ça, un développement faramineux de l'activité. Hein. Et en raison de différentes difficultés qu'il y avait pour vraiment élus et experts, était vraiment en difficulté de pouvoir réaliser ces expertises. Et les expertises économiques, c'est difficile à faire, à les imposer. Pour les missions CHSCT et celles des nouvelles technologies, c'était un peu particulier parce que la loi, en fait, il ne disait pas du tout quelles étaient les compétences ou les qualifications qui devaient détenir la personne qui allait réaliser ces compétences, ces expertises. Contrairement à l'expert comptable, il n'y avait pas de figure associée. Et à chaque fois qu'on nommait un expert, soit un de réseau CFDT, soit un de réseau CGT, en fait, les patronats ils les contestaient, disaient qu'on ne voyait pas en quoi ils étaient experts. Et comme c'est en cas de désaccord, c'est les TGI, pardon, les tribunaux des grandes instances qui doivent trancher. Et la plupart des cas, les TGI, elles validaient l'avis de patronat, en fait. Et donc, ces expertises, ils ne pouvaient pas se réaliser. Donc, face à ces difficultés, les intervenants, ils commencent à se réunir à discuter sur les pratiques et leurs méthodes. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à se définir et à trouver une identité en tant qu'experts non patronaux. Avant, ils se définissaient pas comme ça. Donc, on voit que malgré l'absence d'une profession unifiée d'experts auprès des CRP, ils vont se lancer dans une dynamique multiforme de professionnalisation. Ils développent une stratégie professionnelle en se tournant vers d'autres arènes institutionnelles plutôt que vers les représentants du personnel. Et on peut le comprendre, Pierre Héritier, un peu tous l'ont dit tout à l'heure, hein, ces années sont en effet marquées par un retournement de la situation en défaveur des syndicats. Les syndicats sont engagés plutôt dans des luttes avant tout défensives et ils n'ont pas les moyens de soutenir les prétentions des experts par les mobilisations de leur base. Ce n'est pas tant par choix qui par contrainte que les experts se tournent vers l'objectif de gagner la reconnaissance des tribunaux et du législateur, des employeurs et des corps des experts comptables. Pour les missions économiques, ça a été évoqué par Henri Chaussé-Legrand, tous les travaux qui sont faits avec les avocats pour créer une jurisprudence, et autant du côté des CECAFI à l'époque que des Syndex. Hein. Et pour l'ensemble des intervenants, donc l'expertise économique, nouvelles technologies, CHSCT, les stratégies plutôt, a consisté à trouver une légitimité professionnelle auprès des directions, à intégrer des normes de présentation qui correspondent à l'image des objectivités prétendument exigées par cette direction, et en cherchant à mettre une juste distance avec les organisations syndicales en donnant gage de rigueur et de scientificité dans la conduite de leur travail. Résultat de cela, on voit la codification du métier d'expert comptable ECE, la création des diplômes spécifiques, des guides d'intervention, mais aussi l'intégration de quelques-uns des experts comptables au sein des instances du Conseil de l'Ordre, donc c'est une façon de le reconnaître. Et on assiste également à l'institution d'une procédure d'agrément par les ministères du Travail des experts CHSCT, ce qui permettait du coup de dire, voilà, une fois qu'il y a l'agrément, on ne va pas discuter s'ils sont experts ou pas, toutes les difficultés qu'il y avait avant, ils pouvaient être faits. L'agrément des experts CHSCT, c'est en 93. Et en même temps, est créé et la possibilité de faire appel à un expert CHSCT en cas de modification des conditions de travail. Et du coup, ils peuvent absorber toutes les missions qui étaient avant des nouvelles technologies, c'est ils vont pouvoir les faire passer par cette nouvelle deuxième cas dans lequel on peut solliciter l'expert comptable. Donc en gros, dans cette étape, les derniers indicateurs de professionnalisation aussi, ça a été évoqué, se trouvent dans les changements des critères de recrutement. Et progressivement, ce qui était la cooptation n'est plus la norme de recrutement. Les procédures de sélection deviennent nombreuses, sophistiquées, ainsi que les niveaux de diplôme exigés pour qu'ils ne soient pas contestés par les directions. Et la dernière étape que j'étudie en tout cas, c'est celle de l'autonomisation et la mise à marché de l'activité d'expertise. La montée en puissance des experts en 1995 est indissociable de la mise en marché et qui s'est opérée pour moi au croisement des deux processus. Et d'une part, les désinvestissements plus ou moins progressifs et plus ou moins contraintes des organisations syndicales vis-à-vis de l'expertise. On va assister ainsi à la marginalisation des dispositifs d'intermédiation qui avaient été créés, si je parle de la CFDT, mais ça pourrait être aussi la CGT, mais dans la CFDT, CELIC, CELID, etc., Impact. Et ces dispositifs qui n'étaient pas marchandes, on commence à les critiquer, en fait. Il y a des débats au sein des bureaux nationaux. C'est Rémi Chouin, un des secrétaires qui va le porter fort cette critique, conclut que ces dispositifs, quand ils arrivent, sont coûteux, très chers, éloignés des besoins des militants. Un autre responsable plus des secteurs économiques, Jean-François Troglic, il va considérer que les interventions des syndex ne correspondent plus à la volonté de s'inscrire dans un dialogue tel qu'elle les prône à l'époque la Confédération. Ils vont trouver que les rapports ils sont soit trop critiques, soit trop idéologiques, peu importe. Mais en tout cas, ils vont commencer à se dire s'il ne valait pas la peine d'encourager d'autres types de cabinets qui viennent faire concurrence à Syndex pour élever les niveaux. Et c'est certaines fédérations aussi qui critiquaient ça. Et donc, ils vont vraiment encourager à l'existence d'autres cabinets qui interviennent, qui vont prescrire, et dire vous pouvez aussi solliciter d'autres cabinets, pas que Syndex. Et donc, quelques structures non marchandes et certains s'autonomisent, deviennent des associations privées, et plus tard, certains vont disparaître. Et pour moi, cette situation marque vraiment l'échec d'une voie alternative, celle de la constitution d'une expertise socio-économique interne aux organisations syndicales. Et en parallèle, je disais, il y avait deux mouvements. En parallèle, on voit se développer des stratégies commerciales de la part des cabinets qui cherchent à garantir matériellement leur existence en diversifiant leur offre auprès des élus. Bah, ils ont recruté des intervenants qui sont effectivement, ils travaillent à plein temps, ils sont dans une activité professionnelle à part entière. Il faut assurer ces cabinets comme n'importe quelle autre entreprise. Et donc, avec une activité tout au long de l'année, par exemple, et non pas soumise aux aléas de la demande syndicale qui peut être fluctuant en fonction des débats au sein des confédérations, des controverses, des fédérations qui décident de ne plus les prescrire, etc. Donc, grâce à la légitimité acquise dans les domaines de l'expertise, les plus grands cabinets, mais aussi les petits qui vont travailler en réseau, ils vont commencer à proposer des prestations annexes, autres que l'expertise, des études, des abonnements annuels en service d'assistance, de la formation des élus, qui, je rappelle qu'elle est devenue obligatoire en 1985, la formation des élus des instances. Et je trouve que l'exemple de la formation des élus est vraiment illustratif de ces processus. En fait, la formation des élus a été la chasse gardée des organisations syndicales depuis longtemps et qui, au moment où j'ai fait mon enquête, était une activité remplie de plus en plus par ces cabinets extérieurs, ce qui ne va pas s'en révolter, quels que soient responsables syndicaux qui voient ces experts, comme il disait Udo, déjà autonomisés eux-mêmes, marcher un peu sur leur plate-bande. Et d'autres intervenants aussi sont irrités de l'extension du domaine d'intervention de ces experts. Certains juristes et avocats qui voient leurs dossiers déjà ficelés avant qu'ils arrivent préparés, des inspecteurs du travail, des préventeurs, etc. Donc ils commencent à marquer leurs frontières, mais aussi à provoquer une forme d'irritation et des conflits, hein, des frontières et des juridictions avec les autres. Donc dans un contexte de développement et de décentralisation de la négociation collective, au moment où les élus sont de plus en plus sollicités et que leurs liens se distendent avec leur fédération, les experts débordent de leur rôle en exerçant une activité plus large des conseils, et c'est pour ça que je dis les consultants et pas que les experts. Ils sont, à la différence des militants, rapidement opérationnels pour venir en aide aux élus, disponibles. Et ils font également un travail de prospection qui les amène à côtoyer parfois des plus près ces CRP qui ne les font pas les propres responsables syndicaux. Donc, j'aimerais souligner que cette dynamique de structuration et de l'activité, ce qui nous dit en tout cas des pratiques de représentation des salariés. En effet, si l'expertise est initialement prévue, on pensait comme une ressource mise à la disposition du mouvement syndical, elle s'est finalement imposée comme un recours mobilisé directement par les représentants du personnel, dont certains ne sont même pas syndiqués. Ce qui a été initialement introduit comme une fonction technique syndicale et s'est finalement réalisé sous la forme d'une expertise spécialisée auprès des instances de représentation du personnel. Paradoxalement, l'activité d'expertise auprès des représentants du personnel s'est enracinée au moment où les acteurs qui avaient contribué à les diffuser, les syndicats, s'affaiblissent et perdent prise sur leur section d'entreprise et leur IRP. J'aimerais finir en disant que mes propos peuvent laisser entendre qu'une logique professionnelle a triomphé sur la logique militante des années 70, qu'il y aurait une prégnance du technique sur les politiques et d'une logique commerciale qui explique l'épanouissement de ces experts. Mais je voudrais nuancer un peu cette impression. J'ai suivi des expertises, j'ai fait l'observation. Et je pense qu'un premier regard sur la population des experts telle que je l'ai rencontrée en 2010, mais probablement n'a pas énormément changé, conduit à noter qu'en effet, la nouvelle génération d'experts est plus étrangère au monde syndical qu'au militantisme. Mais, et c'est vraiment les mecs qui pour moi il est important, il ne suffit pas d'avoir des compétences techniques et des titres scolaires pour faire ces métiers. En fait, l'étude plus fine des intervenants ayant investi cet univers professionnel depuis 1990 m'a montré que l'attachement durable au métier, c'est-à-dire les gens qui restent dans le métier, pas ceux qui font pendant une année, deux années des expertises, ceux qui restent vraiment longtemps, suppose d'incorporer un certain nombre d'inclinations morales, je dirais, des savoirs sur les mondes du travail et des savoir-faire militants qui peuvent, en retour, contribuer à politiser dans un sens critique des individus qui ne l'étaient pas auparavant. J'ai montré que c'est d'abord et avant tout la définition publique du rôle d'expert qui s'est trouvé neutralisé. Les anciens experts militants se désignent maintenant plutôt comme des consultants et ils préfèrent se dire au service des salariés, voire du dialogue social, que plutôt du syndicalisme ou du mouvement ouvrier. Mais l'analyse du travail des experts au concret m'a permis de voir comment se combinent, selon les situations, selon les publics qui sont en face, trois façades, celle du professionnel, celle du commercial et celle du militant. Les trois, ils sont ensemble dans ces missions et en fonction et les degrés des interactions avec les autres. Ainsi, le rapport des experts aux représentants des salariés est ambivalent. S'ils marchent sur les plates-bandes des syndicalistes, les experts peuvent aussi contribuer à reconnecter certains élus isolés avec le mouvement syndical. J'ai vu des experts appeler des responsables qu'ils ne connaissaient pas pour attirer leur attention sur ce qui s'est passé dans certains comités d'entreprise au CHSCT, mettre en relation des élus et des plus sérieuses entreprises pour les faire travailler ensemble. À l'époque, il y avait encore CHSCT, CE, et les inciter à se mettre en relation pour avoir une action, une expertise concertée. Enfin, une dernière argument, c'est que si les experts tendent à se substituer aux syndicats, à l'inverse, l'expertise ne se substitue pas aux autres modes d'action syndicales. Les recours à l'expertise se combinent plus qu'ils ne s'opposent à d'autres tactiques. C'est tout l'essence de l'intégration et dans un répertoire d'action syndicale qui, par définition, est large. Et la mobilisation de l'expertise par les élus est d'ailleurs le plus souvent conditionnée à l'instauration d'un rapport de force avec l'employeur, même toujours. D'autres travaux soulignent bien ce rôle de l'expertise qui n'intervient pas dans un sens univoque des pacifications, mais peut s'articuler à d'autres ressources et en situation de conflit. Donc, plutôt que de conclure à un effet univoque d'affaiblissement ou de renforcement du syndicalisme par l'expertise, et ces constats m'ont plutôt conduit à souligner à quel point l'expertise agit surtout comme un révélateur des fragilités du syndicalisme tel qu'on les trouve aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire.